Bienvenue sur Radio Selve Regine. Nous sommes aujourd'hui dans l'émission L'invité de la semaine avec Michel-Édouard Nigaglioni qui est le directeur des services du patrimoine de la ville de Bastia. Bonjour Michel-Édouard.
Bonjour.
Alors Michel-Édouard, vous allez nous parler un petit peu de vos casquettes, de vos différentes casquettes. Vous êtes donc le directeur des services du patrimoine, mais moi je sais que vous êtes très souvent dans les archives ou en train de visiter des tas de choses parce que vous êtes également historien, documentaliste, tout ce qu'on veut, chercheur,
oui.
Photographieur. Hein, je sais que vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, oui, ben, heureusement, ça nous permet aussi d'avoir du matériau pour pouvoir concevoir des ouvrages et des expositions comme celles que nous faisons actuellement au Palais des Gouverneurs. Donc, oui, j'ai plusieurs casquettes, effectivement, puisque j'ai repris depuis le départ de la directrice de notre service, Fernande Maestrach, qui est partie à la retraite en 2007. Donc, j'ai repris son poste, mais j'ai pas tout à fait... Enfin, j'ai même complètement conservé le mien de chercheur. Donc, c'est vrai que je mets mon nez dans les archives et que je documente les œuvres d'art de la ville.
Absolument. Et c'est ça, justement, qui fait que vous êtes si compétent, je vais le dire, à ce poste, parce que, justement, vous connaissez les choses du début jusqu'à la fin, de l'alpha à l'oméga.
Oui, puisque... j'ai les mains dans le cambouis.
Voilà. Donc, je sais, moi, que vous avez écrit, puis beaucoup de gens le savent aussi, que vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment sur le peintre Badaracco, Giuseppe Badaracco, qui était, vous allez nous raconter un petit peu, qui était cet homme, puisqu'il vous a intéressé suffisamment pour lui consacrer un ouvrage, et puis les livres sur les églises de Bastia. Alors, on va commencer par Badaracco, Michel.
Donc. Oh, ben, ça, c'est... En fait, la peinture, c'est mon péché mignon. Donc, voilà, je suis historien de l'art de formation, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, et quand je me suis installé définitivement en Corse, J'ai voulu mettre au service de la collectivité tout ce que j'avais appris lors de ma formation. Donc j'ai continué à étudier les peintres, mais les peintres de chez nous et voilà. Les peintres actifs chez nous. Voilà. Et moi je suis originaire d'un village du Cap Corse et de Morcilla et dans l'église de mon village il y a un tableau qui est signé par Giuseppe Badaracco, d'où l'intérêt particulier pour lui. Et puis c'est un peintre de très bon niveau, un peintre génois du XVIIe siècle. Et je suis parti sur ses traces et je l'ai pisté. et comme il a un style très particulier qui se reconnaît de loin, il a une façon de faire les visages et puis il a une palette de couleurs qui n'appartient qu'à lui. Donc on reconnaît ses œuvres très facilement. Donc ben voilà, ça a été le début d'une enquête policière sur ses traces et j'ai fait le tour du Cap Corse avec lui et j'ai retrouvé ses œuvres à droite et à gauche et notamment même une dans la cathédrale de Bastia.
Voilà, c'est ce que vous nous dites. Et
je l'avais, j'avais écrit à l'époque que c'était une œuvre qui était attribuable avec grande certitude à Giuseppe Badaracco. Et en fait, en rencontrant la restauratrice qui était intervenue sur l'œuvre, elle m'a dit, mais moi, quand j'ai restauré ce tableau, j'ai vu qu'à l'arrière, une partie de la toile était repliée, il y a une inscription. Et ça doit être la signature du peintre. Alors j'étais très intéressé. Et elle m'a communiqué le contenu de l'inscription. Et elle avait lu « J'ai Badaracco ». Non, ça c'est Badaracco. Je le connais, celui-là.
Voilà. Et c'est vrai que quand on piste une œuvre, ou quand on piste aussi une famille ou des documents, hein, même aux archives, c'est un peu une enquête, c'est une vraie enquête. Une vraie enquête policière, et c'est ça qui fait le charme. Puis tout à coup, on ouvre une porte, et puis il y en a une autre qui s'ouvre.
C'est un peu, et puis la démarche est amusante. Moi, je sais qu'au départ, ma mission était d'inventorier les pièces d'orfèvrerie de la ville. Voilà. Donc j'ai commencé par... éplucher
les
inventaires qu'on avait, on n'avait pas grand chose. Et puis donc je suis allé sur le terrain, dans chaque église, fouiller chaque placard, regarder dans chaque armoire et adresser des fiches descriptives d'expertise. Et à cette occasion-là, j'ai noué des relations même amicales avec le clergé de la ville. Et le curé de Saint-Jean de l'époque, le père Valère, il m'avait dit, mais dans le grenier, moi, j'ai des cartons entiers de vieux bouquins, de vieilles archives. Et c'est vrai que là, on a mis la main sur 30 manuscrits, plus de 30 manuscrits, qui étaient des livres de contes des différentes églises de la ville. Et ça nous a permis donc d'apprendre plein de choses. Qui avait fait quoi, en quelle année, combien ça a coûté. Et ça nous a donné donc l'occasion de se dire, on va se lancer dans une série de publications d'ouvrages sur les édifices et les objets d'art de la ville. Et c'est une façon aussi de valoriser notre patrimoine et puis de booster un peu le tourisme.
Ben oui. Voilà. C'est certain. Alors vous avez commencé.
D'une pierre, on fait plusieurs coups.
Voilà. Vous avez commencé par quelle église ?
Au début, ça avait été l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, parce que c'est vrai que là, on avait trouvé beaucoup de documentation et on avait été scié à la base d'apprendre plein de choses comme ça. On a tordu le cou à plein d'idées reçues. On avait lu que les lustres de la Conception, c'était des lustres directoires et on est tombé sur l'achat de ces lustres en 1855. Mm-hmm. Donc là, on est sous le Second Empire. Voilà. On a appris plein de choses comme ça, surtout sur les damas, sur les peintures, sur les dorures, sur les menuiseries. Donc, mis bout à bout, on est arrivé à faire un bel ouvrage.
Un très bel ouvrage sur la conception. Effectivement, le petit confessionnal avec l'entrée dérobée aussi. Ah. Et ensuite, vous avez fait la Sainte-Croix, non ?
Attendez voir. On avait voulu coller à l'actualité parce que
Saint-Angelo.
Les autres services travaillaient à l'ouverture de la maison des associations à Saint-Angelo et la directrice de l'époque m'avait dit ça serait génial si on arrivait nous à sortir quelque chose pour coller à l'actualité. Et donc là on avait utilisé beaucoup d'informations qu'on a trouvées à Vincennes. Dans les archives des militaires.
Oui, de l'armée, oui, c'est clair. Oui,
Donc on fait flèche de tout bois, on fouille partout.
N'est-ce pas ? Et Saint-Angelo, et d'ailleurs, Saint-Angelo, précisons-le, Saint-Angelo, c'est Saint-Michel-Archange.
Tout à fait.
Voilà. Mm-hmm. Et bon, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien voir, mais à travers votre ouvrage, on voit surtout les objets qui étaient à Saint-Angelo, qui sont partis dans d'autres églises.
Voilà,
qui ont été...
avec la Révolution, l'édifice a été fermé et l'église déconsacrée et le patrimoine mobilier a été dispersé à travers diverses autres églises de la ville. Et donc, on est parti à la recherche de tout ça.
De tout ça. Ensuite, vous avez fait Sainte-Croix ou...
Je crois, oui. Je ne sais plus. Voilà. Il y en a tellement.
Moi, je les ai mis dans l'ordre, mais après, j'ai... Donc,
Sainte-Croix aussi, c'est un des joyaux du patrimoine Bastier. Mmh. Et quelque part, on est content aussi parce que c'est à la fois un oratoire de confrérie, mais par rapport à la Conception, c'est une ambiance tout à fait différente. Et il y a de quoi quand même éblouir aussi, même des gens qui sont blasés, même des Italiens ou des Parisiens qui ont l'habitude de très beaux édifices. Quand ils arrivent à la Conception ou à Sainte-Croix, ils ont quand même la bouche ouverte.
Ah oui, pour moi, ce sont les deux plus beaux, l'un de Bastia. Nos chouchous. Il est certain que Saint-Jean...
Oui, alors Saint-Jean aussi, ça a été une histoire d'amour, parce que c'est vraiment un édifice étonnant, qui a traversé les siècles et qui a été métamorphosé. Et justement, à l'étude des documents, on s'est rendu compte que les Bastiers de maintenant, ou plutôt, prenons le problème à l'envers, le Bastier des années 1690, s'il revenait dans Saint-Jean-Baptiste, il ne le reconnaîtrait pas.
À ce point.
Et le Bastier des années 1750, s'il revenait dans Saint-Jean-Baptiste, il ne reconnaîtrait pas. Cet édifice s'est vraiment métamorphosé à travers les siècles. Les décors ont complètement changé. Il faut imaginer aussi que jusqu'au Second Empire, les pilastres et les chapelles latérales étaient tendues de damas rouge.
Comme à l'Immaculée
Conception. Donc l'ambiance était tout à fait différente. Le décor peint, il est très tardif. Il est de la fin du 19e, il y en avait un autre avant. Oui. Donc c'est vraiment des métamorphoses successives.
Dommage qu'on n'ait pas les cartons des anciens tableaux. Hein. C'est vrai que tout ça, c'est absolument fascinant, tout ce que nous raconte Michel Édouard. Alors, il faut voir un petit peu. Vous voyez, en partant du costume, on est arrivé à des choses.
Hein, voilà, au beaucoup, patrimoine sous on est tous arrivé, ses aspects.
Voilà, au patrimoine sous tous ses aspects. Nous allons peut-être nous quitter pour aujourd'hui. Et puis, à la prochaine émission, qui sera la dernière, je pense, avec notre invité de la semaine, eh bien, nous aborderons, nous reverrons un petit peu la suite de celle d'aujourd'hui, avec peut-être des projets, des projets pour l'avenir par la direction du patrimoine et aussi par le chercheur qu'est Michel-Édouard Nigaglioni. À demain.